Alexandre Rosset, bonsoir.
Bonsoir. La commune de Clos-du-Doubs veut encore renforcer l'attractivité de Saint-Ursanne. Elle souhaite lancer une nouvelle stratégie touristique. Les citoyens sont appelés à valider un crédit de près de 900 000 francs. L'association Transport et Environnement donne ses solutions après le rejet de la loi sur le CO2. L'ATE demande des mesures rapides dans le domaine de la technologie et surtout de la mobilité. Deux matchs avec des enjeux bien différents ce soir à l'Euro. La Croatie et l'Écosse s'affrontent pour rester dans le tournoi. L'Angleterre et la République tchèque se disputent la première place du groupe D. À 23 juin, en demi-teinte, nous attend du côté du ciel. La matinée pourrait se montrer bien ensoleillée avant l'arrivée de nouveaux orages parfois violents dans l'après-midi. Les températures s'annoncent plutôt chaudes. La commune de Clos-du-Doubs s'apprête à lancer une nouvelle stratégie touristique, notamment pour Saint-Ursanne. Objectif, améliorer le chiffre d'affaires et l'emploi. Les citoyens se prononceront le 28 juin sur un crédit de 885 000 francs pour la mise en œuvre d'un catalogue de mesures visant à renforcer l'attractivité par l'accompagnement d'acteurs du tourisme. Sur ce montant, 110 000 francs sont à la charge de la commune. Le reste est composé de subventions du canton du Jura, de la Confédération et de divers partenaires. L'enjeu est donc de renforcer l'économie à travers des investissements dans des domaines où le potentiel existe. Entretien avec le maire de Clos-du-Doubs, Jean-Paul Lachat.
Les établissements publics ont vécu une période difficile avec le Covid. Et puis surtout, on s'est trouvé il y a 2 ans en arrière dans une situation où on avait plusieurs établissements de Saint-Ursanne qui étaient à remettre et puis qui peinent, certains ne sont pas encore remis, à trouver un successeur. De là est partie la réflexion, qu'est-ce qu'on veut comme développement touristique à Saint-Ursanne, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner ces prestataires, puisque ce secteur économique est un des piliers de la région de Clos-du-Doubs. Il faut rappeler qu'on a perdu l'activité industrielle liée à l'horlogerie de manière définitive dans les années 80. Donc, on investigue là où on pense qu'il y a encore un peu de potentiel pour développer des valeurs ajoutées et de l'emploi.
Saint-Ursanne est déjà connu pour être en quelque sorte le joyau touristique du Jura avec l'étang de la Gruère. Qu'est-ce que vous cherchez ? Un tourisme de masse ?
Alors surtout pas. L'idée, c'est de travailler avec le même nombre de touristes qu'on a actuellement, c'est-à-dire entre 100 et 120 000 visiteurs par année à Saint-Ursanne, et puis de leur faire dépenser, si j'ose dire, un peu plus d'argent que ce qu'ils ne dépensent actuellement. Les évaluations qui ont été faites démontrent qu'on est aux environs de 7 millions de dépenses que les gens font, qu'on pourrait les augmenter en les gardant, ces touristes, un petit peu plus longtemps. Pour les garder plus longtemps, ben là, il s'agit de mettre en place des mesures qui leur permettent de faire des activités complémentaires et puis de dépenser un peu plus à la fin.
Activités complémentaires, mais également logement pour que les gens restent plus longtemps. On a entendu parler il y a quelque temps déjà du projet d'un hôtel, quand même d'un certain standing qui pourrait voir le jour. Est-ce que avec cette nouvelle stratégie touristique, ça devient un peu concret pour Saint-Ursanne ?
Alors ça en fait clairement partie. L'idée d'avoir un hôtel qui puisse accueillir 25-30 chambres d'un niveau d'un bon standing, on va dire. On ne va pas parler de nombre d'étoiles. Et puis justement, qui garde les gens plus longtemps, parce qu'on sait qu'un touriste qui dort un endroit, il dépense en gros 110 francs par personne, alors qu'un touriste de passage, c'est ce qu'il y a beaucoup à Saint-Ursanne et dans le Clos-du-Doubs, il laisse en gros 35-36 francs. Donc on voit que c'est 3 fois plus et puis qu'il y a lieu de travailler dans ce domaine-là. Alors bien sûr que pour arriver à trouver des partenaires financiers, des investisseurs, un des objectifs de cette stratégie, c'est de montrer qu'on a une volonté d'aller de l'avant pour intéresser des gens à développer quelque chose avec nous dans le Clos-du-Doubs et à Saint-Ursanne en particulier.
Jean-Paul Lachat qui répondait à Raphaël Chalvera. Vous pouvez retrouver l'entretien complet sur rfj.ch. Le rattachement de Moutier au canton du Jura entre dans une phase concrète. Les délégations du gouvernement jurassien et du conseil municipal de Moutier ont constitué aujourd'hui un comité paritaire. Ce dernier sera chargé d'examiner les modifications législatives nécessaires à l'accueil de la cité prévotoise. Il compte 4 conseillers municipaux et 3 ministres jurassiens. Le mouvement autonomiste jurassien organise ce mardi soir une commémoration du 23 juin à Port-en-Truy. L'accueil de Moutier dans le Jura sera évidemment au cœur de cette cérémonie, prévue à 18h30 en présence de représentants des autorités communales et cantonales. L'événement se tient sur l'esplanade du château. Il est limité à 300 personnes en raison des restrictions en vigueur. Et nous reviendrons sur cette cérémonie demain dans notre journal de 12h15. Un accident de la circulation s'est produit en début d'après-midi sur l'autoroute A16. Une collision frontale entre deux voitures qui roulaient très lentement est survenue à la sortie du tunnel du Mont-Russelin en direction de Delémont. En cause, la mauvaise visibilité due à un orage violent. Personne n'a été blessé, mais la circulation a été perturbée pendant une demi-heure. La piscine de Port-en-Truy devrait rouvrir ses portes vendredi. L'infrastructure est fermée depuis hier en raison d'un problème technique lié au chlore. Celui-ci a pu être résolu selon la municipalité, qui précise toutefois que des prélèvements et analyses seront encore effectués demain et jeudi par mesure de précaution. La piscine avait déjà dû fermer ses portes il y a un mois en raison d'un autre problème. Une assemblée communale est au programme ce soir à Mauvelier. Les citoyens doivent valider les comptes 2020 qui bouclent sur un déficit de 40 000 francs. Rendez-vous est fixé à 20h à la halle polyvalente. C'est un marais d'importance nationale situé au Russie, à la frontière cantonale entre le Jura et Berne. La tourbière de la Chaux est en cours de revitalisation depuis l'an dernier. Le projet vise à restaurer l'hydrologie du marais et ainsi à assurer la protection d'une faune et d'une flore très spécifiques. Dans quelques jours, une nouvelle phase du chantier va s'ouvrir, toujours avec la collaboration de l'armée. Des munitions sont en effet enfouies dans le sol sur cette ancienne place de tir. Les explications du chef de projet à l'Office bernois de l'agriculture et de la nature, Olivier Bessir.
Alors l'armée a fait un immense travail de déminage, là où nous on veut créer les ouvrages, où on veut passer avec les machines. Donc ça c'était un grand travail, encore ce printemps, et une phase de déminage. Donc pour l'instant nous on est vraiment très contents de cette collaboration, ça se passe bien. On n'a pas découvert des choses immensément dangereuses, mais le risque est toujours là de tomber sur quelque chose qui pourrait nuire au chantier.
Donc il a quand même fallu faire exploser quelques objets, c'est ça?
C'est ce que j'ai entendu aussi à nos derniers échanges avec l'armée. Par précaution, des munitions qui ne sont pas définies ou qui sont difficilement identifiables sont explosées.
Olivier Bessir qui était au micro d'Olivier Zano. Cette année, les travaux dans la tourbière s'étaleront jusqu'à mi-novembre. Un périmètre de sécurité sera établi avec des itinéraires de déviation pour les randonneurs, les cyclistes et les cavaliers. La clinique Le Noirmont a un nouveau directeur. Ariane Kovacic a été nommée à la tête de l'institution selon une annonce faite aujourd'hui par le conseil d'administration. Ariane Kovacic est actuellement le directeur du centre médical de Bienne et des centres ambulatoires de l'hôpital du Jura bernois. Il entrera en fonction dans les Franches-Montagnes le 1er septembre. La vaccination contre le coronavirus est désormais recommandée dès l'âge de 12 ans en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique et la Commission fédérale de vaccination ont transmis aujourd'hui leur position concernant les jeunes de 12 à 15 ans. Même si cette catégorie présente peu de risques de développer une forme grave, les adolescents doivent avoir la possibilité de se vacciner selon l'OFSP. La recommandation s'adresse en particulier aux personnes atteintes d'une maladie chronique. Une mobilité sans énergie fossile à l'horizon 2050, c'est possible selon l'ATE. L'association Transport et Environnement a présenté aujourd'hui différents scénarios. Pour elle, le constat est clair, il ne faut pas rester les bras ballants après le rejet de la loi sur le CO2. Ce projet aurait constitué une base intéressante pour déployer de nouvelles ambitions. Une évolution positive est toutefois encore envisageable, pour autant que tous les acteurs concernés combinent leurs efforts selon l'ATE. Les explications de Stéphanie Penner, responsable politique des transports et campagne au sein de l'ATE.
On a besoin d'une large combinaison de mesures à tous les niveaux politiques. Et pour réaliser les objectifs, il faut des mesures qui sont dans le domaine de la technologie, mais aussi dans le domaine de la demande des transports. Donc c'est une combinaison entre le transfert technologique rapide des énergies fossiles aux énergies électriques et aussi une réduction de la demande des transports. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un point très important, c'est qu'on doit se dépêcher de mettre ces mesures en œuvre. Et pour nous, il faut au plus tard, en 2025, qu'elles soient mises en œuvre.
Les coûts de cette transition ne sont pas articulés précisément. Parmi les mesures concrètes prônées par l'association, on citera par exemple l'interdiction d'homologuer des voitures avec des moteurs à combustion d'ici 2030, ainsi que l'amélioration du réseau de pistes cyclables.
Belle soirée à l'écoute des RFJ, il est 18h10.
Le journal de l'euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen.
Place au dénouement pour le groupe D. Deux matchs se jouent ce soir à 21h dans cet Euro 2020 de football. La Croatie défie l'Écosse à Glasgow alors que la République tchèque se frotte à l'Angleterre à Londres. Présentation des enjeux avec Mathieu Schaffner.
Tchèques et Anglais sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ce duel ne sera pas sans intérêt. Pour autant, les deux nations vont se disputer la première place du groupe. Un point suffit au bonheur des joueurs de l'Est alors que l'Angleterre doit l'emporter pour terminer en tête. Mais il y aura peut-être la volonté d'éviter ce premier rang. Il est synonyme de huitième de finale contre le deuxième du groupe F, le fameux groupe de la mort, soit la France, l'Allemagne, le Portugal ou la Hongrie. Tchèques et Anglais pourraient ainsi privilégier le deuxième rang et un huitième de finale face au deuxième du groupe E, la Suède, la Slovaquie, l'Espagne ou la Pologne. Pas de calcul à faire en revanche pour le deuxième match de la soirée. La Croatie et l'Écosse n'ont qu'un petit point au compteur. La victoire est impérative. Elle sera même synonyme de qualification. Nul en revanche renverrait ces deux nations à la maison.
Et plusieurs joueurs vont manquer ces rencontres du soir. L'Écossais Billy Gilmour a été testé positif au Covid hier. Ce cas a des répercussions dans l'équipe d'Angleterre. Mason Mount et Ben Chilwell ont été déclarés cas contact aujourd'hui. Les deux hommes ont eu un échange avec Billy Gilmour vendredi après le match face à l'Écosse. Ils sont placés à l'isolement jusqu'à lundi. La patience est de mise dans le camp suisse. La sélection de Vladimir Petkovic a rejoint Rome hier soir. C'est là qu'elle a appris sa qualification pour les huitièmes de finale. Suite aux résultats des groupes B et C, la Nati est assurée de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Elle ne connaîtra toutefois le nom de son adversaire que demain soir. Mais à en croire l'attaquant Brel Embolo, les Helvètes n'ont pas de préférence.
Non, en vrai de vrai non. On s'est un peu énervé de ne pas pouvoir passer en tant que deuxième, de pouvoir attendre vraiment jusqu'à hier soir pour savoir qu'on est passé. Mais après, si tu veux aller loin, il faut savoir aussi gagner des grands matchs et c'est ça qu'on a dans la tête. On veut faire le prochain pas et on va tout faire. On va se concentrer pour ces prochains jours et ces prochaines heures, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, pour faire cette prochaine étape avec tout le monde.
Et avant de penser à ce huitième de finale, les Helvètes ont pu savourer leur qualification. Ce ticket composté pour la suite de la compétition semble booster le moral des troupes à l'image du défenseur Loris Benito.
Ça fait très bien, surtout après les derniers jours, avec la pression. On a lu pas mal de choses contre l'équipe qui ne sont pas faciles à digérer. Sur un plan personnel aussi, j'ai vécu 6 mois difficiles à Bordeaux, beaucoup de négativité. Et ça fait du bien de faire partie d'un groupe et d'un projet positif, on va dire comme ça. On a joué pour quelque chose, on s'est qualifié, ça fait du bien. J'ai hâte de voir ce qui va arriver.
Des propos recueillis par nos confrères de la RTS. Et c'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très belle soirée.
Le journal de l'Euro, sur le terrain de la mobilité responsable, avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique, à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen. Un coup d'œil sur le ciel de ce soir. Un temps assez ensoleillé selon Météo News, des températures quasi agréables avec des cumulus qui sont tout de même parfois imposants. Une soirée et une nuit assez dégagées, c'est généralement le temps reste sec malgré quelques averses orageuses, pas exclues. Les températures elles sont un petit peu plus fraîches. Demain, le temps sera assez ensoleillé, quelques bandes de nuages aux premières heures du jour et puis le développement de quelques cumulus sur les hauteurs. Quelques averses et orages localement forts vont éclater demain dès le début de l'après-midi. Sur l'ensemble de la région, risque d'averses et d'orages persistants en soirée et dans la nuit. Décidément, c'est notre semaine. Les températures demain le matin, 12-14 degrés au meilleur de la journée, jusqu'à 22 à 24 degrés, jusqu'à 19 à 1000 mètres.